journal Loïc Barrière. La Tunisie prépare un forum international sur l'investissement le mois prochain. Entretien avec Samir Saïd, le ministre tunisien de l'économie et de la planification, de passage à Paris. L'analyse des résultats des législatives au Liban. La journaliste Maya Kadra est l'une des invitées de « Et si on en parlait ?» ce jeudi, extrait dans ce journal. L'ONU s'inquiète de l'impasse politique en Irak 7 mois après les élections législatives. L'Union européenne et les pays du Golfe annoncent un renforcement de leurs relations, notamment sur la question de l'écologie. Enfin, le décès de Françoise Rudetsky, fondatrice de SOS Attentat. La Tunisie prépare un forum international sur l'investissement le mois prochain. Radio Orient reçoit ce jeudi soir Samir Saïd, le ministre tunisien de l'économie et de la planification, qui effectue une tournée européenne dans le cadre de la préparation de ce forum. Extrait de cette émission.
Nous organisons la 20e édition du forum Tunisian Investment Forum, le forum tunisien de l'investissement. Nous allons inviter nos amis investisseurs européens et de tous les coins du monde pour leur présenter l'ensemble du programme de réformes économiques que nous sommes en train de mener et des améliorations du climat des affaires. La Tunisie, elle a un positionnement géographique exceptionnel et elle a particulièrement et surtout une capacité et de ressources humaines qui sont de classe mondiale. Nous produisons 10 000 ingénieurs par an et à peu près autant en IT et data scientist et tout ce qui est dans les nouvelles technologies.
Et donc une position stratégique importante. Après la crise sanitaire, on s'est aperçu que l'Europe avait eu beaucoup de problèmes à importer certains produits. Le fait que la Tunisie se trouve au centre de la Méditerranée, c'est un atout pour votre pays, notamment pour les exportations.
C'est exactement l'atout principal que présente la Tunisie, parce que après la crise que vous avez décrite, il y a une tendance maintenant lourde auprès de grands équipementiers, aux grands producteurs, de se rapprocher un peu du marché des consommateurs. Donc la position privilégiée de la Tunisie, nous sommes à moins de 2 heures ou 3 heures de vol de toutes les capitales européennes, permet à l'ensemble de ces constructeurs et fournisseurs de produits de bénéficier de la proximité géographique et en même temps du coût relativement compétitif de la matière grise tunisienne qui bénéficie un peu de toute une infrastructure d'éducation et de formation professionnelle qui positionne la Tunisie parmi les pays les plus compétitifs en matière de ressources humaines, le facteur clé aujourd'hui du développement des entreprises.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué les réformes qui ont été instituées depuis l'élection du président Kais Saied. Dans quelle mesure ces réformes peuvent-elles favoriser des investissements en Tunisie? Est-ce que vous pouvez nous présenter, je dirais, l'essentiel de ces réformes?
Je vais me contenter des grandes lignes de la vision 2035 qui va guider un peu les travaux du plan qu'on est en train de mener et qui seront d'ailleurs pris, le plan 2023-2025 sera pris au mois de juin et dont on exposera durant le Tunisian Investment Forum les principales conclusions. Et on a la vision 2035 qui est prête, qui va être discutée bientôt au Conseil des ministres, qui se présente au niveau sur 5 ou 6 axes importants. Nous avons l'élément humain et de loin le facteur le plus important, l'éducation, la santé, l'épanouissement culturel et personnel, etc. Nous avons l'économie de savoir. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un début de révolution, la révolution numérique, la révolution du savoir, et la Tunisie est bien positionnée pour pouvoir contribuer dans ce développement. Nous avons l'entrepreneuriat, qui est vraiment, avec l'investissement privé, le moteur de croissance et de développement choisi en Tunisie. Et ce développement également tiendra compte de conditions climatiques, et donc il sera vert, il sera circulaire, il sera inclusif également, puisque nous ne voulons laisser personne derrière. Nous voudrions, par cette création de richesse, par une économie libéralisée et avec des potentialités qui sont épanouies, de créer une richesse qui va être répartie. Et c'est le rôle de l'État, parce que la Tunisie avait la tradition d'avoir une classe moyenne très très forte. Aujourd'hui, malheureusement, cette classe moyenne est en train de s'affaisser, et donc ça, c'est un phénomène que nous voudrions stopper. Et le rôle de l'État, c'est d'assurer cette justice sociale. Et ça, c'est pour les individus d'un côté, mais également pour les régions. Parce que nous avons les régions de l'intérieur qui n'ont pas eu leur chance de développement et leur part de soutien de l'État.
Le berceau de la révolution tunisienne.
Oui, oui, ça a été une des causes qui a amené la révolution. Et donc, ces régions-là, maintenant, travaillent intensivement sur leur plan. Et on leur a même demandé d'identifier quelques activités pour lesquelles ils ont un avantage compétitif par rapport aux autres régions. Et on est prêt à faire de cette région la capitale de cette activité, d'y ramener les grands projets nationaux pour créer des clusters et permettre ce développement de coller.
Alors, il y a quelques heures, vous avez rencontré les représentants du patronat français, le MEDEF. Les Français veulent investir en Tunisie dans quel domaine ?
On a identifié 4 ou 5 secteurs prioritaires, je ne dirais pas prioritaires, mais qui ont des avantages pour lesquels la Tunisie a démontré qu'elle a un avantage compétitif très clair. Nous avons le secteur de l'auto, et nous avons composants auto nous avons une tradition d'un demi-siècle maintenant de production de ce composant automobile. Nous avons l'aéronautique également, et on s'oriente de plus en plus vers les systèmes embarqués qui ont besoin, et tous les développements informatiques ont besoin justement de cette matière grise disponible en Tunisie. Nous avons l'industrie pharmaceutique. La Tunisie est un leader africain dans ce domaine-là. Il a été récemment choisi pour être parmi les premiers pays qui vont contribuer à la préparation et la fabrication de vaccins. Nous avons la numérisation, l'industrie numérique, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc., pour lesquelles nous avons déjà un champion qui est en train de se développer mondialement, un Stadip qui a récemment fait un partenariat avec BioNTech, la société qui a inventé le vaccin coronavirus. Et nous avons, bien sûr, l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable a des potentialités énormes en Tunisie, le solaire. On est vraiment bien positionné pour cela. L'hydrogène vert pour lequel nous avons une stratégie, et nous avons une immense opportunité. Nous allons relier le grid italien au grid tunisien, donc nous allons brancher le système tunisien au système européen, et on pourra importer de l'électricité une fois cet investissement réalisé pendant l'été, parce qu'on est net importateur de l'Europe, et exporter durant l'hiver où nous avons la chance d'avoir le soleil.
Cette question de l'énergie, elle est cruciale pour l'Europe au moment où se déroule cette guerre en Ukraine et où il y a beaucoup d'incertitudes justement sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe.
D'où l'accélération de ce programme-là, parce que c'est dans l'intérêt mutuel de deux parties. La Tunisie est en train d'importer également à LPDV une facture très très lourde de gaz, et le solaire, il coûte à la production 4 fois moins cher que le gaz. Donc les deux parties sont très très motivées pour faire avancer ce projet dans le meilleur délai.
Samir Saïd, le ministre tunisien de l'économie et de la planification, il est l'invité de Rencontre sur Radio Orient ce jeudi à 21h, rediffusion de l'entretien samedi à 18h30 et dimanche à 11h. Israël a arrêté l'un des Palestiniens qui a porté le cercueil de Shirin Abu Akleh. Son avocat affirme qu'il a été interrogé sur son rôle lors des funérailles, mais Israël rejette tout lien entre les funérailles et l'arrestation de ce Palestinien, dénonçant, je cite, « une théorie du complot ». Au Liban, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, estime qu'aucun groupe parlementaire ne peut prétendre avoir obtenu la majorité. Lors de ce scrutin, le bloc parlementaire mené par le Hezbollah a perdu la majorité et des députés indépendants ont été élus. Ce jeudi à 19h et 23h, votre émission « Et si on en parlait ?» analyse les résultats de ces élections. Alexis Bachelet reçoit le politologue Qatar Abou Diab et la journaliste Maya Kadra. Maya Kadra, qui rappelle les pressions exercées par le Hezbollah avant le scrutin, elle évoque aussi les pouvoirs du Parlement libanais. On l'écoute.
Nous avons vu un peu que le Hezbollah est acculé bien avant le scrutin. Le Hezbollah n'a pas lésiné sur les moyens quand il s'est agi de menaces contre certains candidats. Je rappelle que dans la circonscription de Baalbek El Hermel, là où le Hezbollah est très très présent d'une manière armée même et pas uniquement présent populairement, 3 candidats chiites sur la liste adverse sous la menace ont été obligés de se retirer de cette liste, sachant que ça, ce n'est ni constitutionnel, ni légal, ni quoi que ce soit, ça n'a pas invalidé en fait la candidature des autres candidats présents sur cette liste, mais sous le coup de la violence, beaucoup de candidats n'ont pas osé se présenter aux élections ou bien se sont retirés des listes aussi. Il a tout fait en fait pour renflouer son allié chrétien, Gebran Bessil, qui est à la tête du CPL, le courant patriotique libre aussi. Donc ce bloc-là que vous considérez ou bien qu'on qualifie de chrétien a été élu à 50% par des votes chiites. Donc c'est un cadeau offert par le Hezbollah à son allié chrétien parce qu'il a toujours besoin de cette ombrelle, soi-disant, de légitimité chrétienne. C'est comme ça, en fait, qu'il a pu réussir à infiltrer les institutions depuis 2006 et les accords de Mar-Mikhaïl. Je rappelle pour vos auditeurs que cet accord, c'est un accord signé entre le président Michel Aoun, après son retour d'exil, et Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah. Aujourd'hui, cette équation-là de l'ombrelle de légitimité accordée par les chrétiens au Hezbollah est tombée. Et non seulement cela, il y a les alliés pro-syriens du Hezbollah qui n'ont pas pu accéder historiquement pour la première fois après le retrait des troupes syriennes au Parlement. C'est la première fois que nous avons des figures comme Mia Mohab, qui est une figure druze pro-syrienne, qui multiplie ses visites à Damas chez Bachar el-Assad, et ses preuves d'amitié aussi. On a Talal Erslan, on a Karameh au nord, à Tripoli, qui a été battu, Hardan au sud aussi. Ça, c'est vraiment, c'était les représentants du régime syrien au Liban. Il y a également le parti nationaliste syrien qui aussi n'a pas été représenté au Parlement aujourd'hui. Donc, nous pouvons parler aujourd'hui d'un vote pour la souveraineté du Liban, d'un référendum pour la souveraineté, avec toute la diversité que cette souveraineté peut inclure d'indépendants, de partis traditionnels, de candidats qui sont aujourd'hui des députés issus de la contestation dans la rue aussi. Et donc c'est ça le facteur qui a affaibli le Hezbollah aujourd'hui. Le Hezbollah n'a plus cette majorité et donc il ne peut plus profiter de ce système libanais parlementaire monocaméral, c'est-à-dire où la Chambre des députés décide tout. C'est la clé de tout,
la clé de voûte du système politique libanais.
Exactement, c'est la clé de voûte de notre système politique libanais, et même le Parlement est supérieur dans ses lois qu'il légifère, et dans ses décisions, il est plus fort que même le Conseil constitutionnel. C'est pour cela que toujours, tous les quatre ans, c'est une énorme bataille qui se passe au Liban, avec toutes les tensions qui l'accompagnent, parce que justement, tout tient, ou bien tout passe par le Parlement, que ça soit les décisions régaliennes, que ça soit l'élection présidentielle, que ça soit aussi la désignation du Premier ministre qui a beaucoup de prérogatives au Liban et que ça soit aussi au niveau des équilibres dans les différents gouvernements. Cet équilibre-là, il rimait avec des gouvernements d'union nationale dans les dernières années parce qu'il y avait un bras de fer au niveau du Parlement, donc moitié-moitié avec une certaine majorité pour le Hezbollah et ses alliés. Aujourd'hui, il n'y a plus cette équation-là. Et donc, on peut accéder vraiment et véritablement à des gouvernements dits souverainistes. On entend quoi par des gouvernements souverainistes? Ce n'est pas vraiment le sens qui peut être parfois mené à UEADIA, tiré à UEADIA. Ici en Europe, j'explique ce que veut dire souverainisme au Liban, c'est-à-dire pas de présence d'armes sur le territoire libanais en dehors des armes de l'armée libanaise, ce qui est le béaba de tout état de droit, en fait. Mmh. Et ça, ce n'est toujours pas le cas au Liban. Nous avons une milice armée qui est le Hezbollah. On a toujours des armes éparpillées sur tout le territoire libanais, un peu comme le phénomène américain. Chacun peut s'acquérir une arme. Et après, c'est un peu la pagaille dans tout le territoire libanais. Il y a les camps palestiniens qui ne sont toujours pas désarmés. Il y a des citoyens libanais qui détiennent des armes, chrétiens, musulmans, toutes confessions confondus en fait. Et ça, c'est un phénomène qui est à éradiquer aujourd'hui pour que l'État recouvre un peu sa dignité, même sa dignité et sa souveraineté sur le territoire libanais. Il y a également une série de réformes qui est à appliquer, et ça sera le grand enjeu du gouvernement, parce qu'évidemment, il y a une bataille souverainiste, mais il y a une bataille économique aussi. Le peuple libanais, il vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté. Il n'a pas accès au courant électrique, il n'a pas accès à Internet, ou bien très rarement et d'une manière très très sporadique. Aujourd'hui, ça c'est des priorités aussi. Il ne faut pas reléguer au second plan les revendications vitales des Libanais, c'est-à-dire avoir droit à l'éducation, à l'électricité, à l'eau, et aussi à une certaine dignité, à un certain niveau de vie aussi. Ça, c'est une revendication centrale qu'il ne faut absolument pas ignorer par la nouvelle majorité au Parlement libanais.
La journaliste Maya Kadra, elle est l'une des invitées de « Et si on en parlait ?» ce jeudi à 19h et 23h sur Radio Orient. La Commission européenne a adopté une déclaration conjointe sur un partenariat stratégique avec les pays du Golfe. Il s'agit de renforcer la coopération de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe, une coopération axée notamment sur l'énergie, la transition verte et le changement climatique. L'émissaire de l'ONU en Irak appelle la classe politique irakienne à sortir de la crise politique. Cet émissaire met en garde contre le risque de débordement dans la rue. Plus de 7 mois après les élections législatives, les députés irakiens n'ont toujours pas élu de président de la République. En Égypte, peine capitale pour le meurtrier d'un prêtre copte. Le religieux avait été poignardé à Alexandrie le mois dernier. En France, le décès de Françoise Rudetsky, fondatrice de SOS Attentat, créée pour défendre les victimes du terrorisme. Morte à l'âge de 73 ans, elle avait été grièvement blessée lors de l'attentat du Grand Véfour. C'était en 1983. Françoise Rudetsky avait réussi à faire reconnaître aux victimes du terrorisme le statut de victime civile de guerre et la possibilité pour les associations de se porter partie civile lors des procès. La Banque mondiale va débloquer une aide de 12 milliards de dollars pour répondre à la crise alimentaire dans le monde, une crise aggravée par la guerre en Ukraine. Ces fonds iront en priorité aux pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est et d'Asie centrale et du Sud. Enfin, la pollution tue 9 millions de personnes par an à travers le monde. Selon une étude publiée par The Lancet, une mort prématurée sur 6 dans le monde est liée à la pollution. La mauvaise qualité de l'air et les composants chimiques sont à l'origine de graves maladies du cœur, de cancers et de problèmes respiratoires. Et puis, je vous rappelle la nouvelle fréquence de Radio Orient à Tours, où vous pouvez désormais nous écouter en DAB+. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité.